Il est 19h. Et Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir à tous. Elle nous fait respirer, boire, manger et nous la détruisons. Il faut sauver la nature pour sauver l'homme. C'est le message d'alerte du rapport sur la biodiversité dévoilé aujourd'hui. Amphibiens, coraux, mammifères marins, 1 million d'espèces sont menacées. Pour les experts, la richesse ne doit plus se penser qu'en termes de PIB. Constat et solution dès le début du journal. 22 000 emplois à supprimer en 3 ans et la pression de la direction de France Télécom sur ses salariés. 35 suicides il y a 10 ans, des tentatives, des dépressions. Début du procès pour harcèlement moral. Nous sommes sur place. Au sommaire également ce soir, Édouard Philippe avec Nathalie Loiseau à Caen pour faire décoller la campagne européenne de la majorité. Pékin sceptique après l'annonce de Trump sur les nouvelles hausses des droits de douane. Le cinéma et les Français toujours beaucoup en salle, mais pas seulement. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, on s'accroche à l'équipe Mag ce soir pour parler d'homophobie dans le sport. Ce numéro spécial a fait tant de bruit, de bons bruits. Oui, mais aussi des réactions dégueulasses, disons-le franchement, qu'on s'est dit qu'il fallait poursuivre cette conversation et c'est ce qu'on va faire. Très peu de sportifs et de sportives sont outés aujourd'hui. Les chants des supporters restent les mêmes dans le foot notamment. Qu'est-ce qui se passe chez les amateurs? Comment on lutte efficacement contre l'homophobie dans le sport? Vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000.
Si vous avez déjà visité la grande galerie de l'évolution du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, vous avez peut-être aussi parcouru à côté la salle des espèces menacées et disparues. Près de 700 espèces de vertébrés rayées de la Terre depuis le 14e siècle, et cela à cause des actions de l'homme. Ce midi, les scientifiques de l'IPBES présentaient leur rapport, des milliers de travaux de 145 experts venus de 50 pays, sorte de vigie de la biodiversité comme l'est le GIEC pour le climat. Et leur président, le Britannique Robert Watson, portait une cravate avec un dodo, un oiseau de l'île Maurice, qui s'est éteint moins d'un siècle après sa découverte. Tout ça pour dire quoi? Eh bien que l'alerte est plus que sérieuse. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
1 million d'espèces sont donc menacées d'extinction si on ne fait rien.
Oui, et parmi elles, 40% d'espèces d'amphibiens sont menacées, plus d'un tiers de tous les mammifères marins. Pour les insectes, la situation est moins claire, mais le rapport estime néanmoins que 10% sont en danger. 10% de 5,5 millions d'espèces d'insectes, c'est une hécatombe. On retiendra également que plus de 30% des récifs coralliens sont dans le rouge. Un tiers des stocks de poissons sont surpêchés. L'inventaire de l'IPBES est très sombre. Sa secrétaire exécutive, Anne-Larry Gaudry.
La planète est maintenant entièrement sous la domination de l'activité humaine, avec 75% de la surface terrestre qui est complètement occupée par l'activité humaine. On sait qu'elle menace de plus en plus la capacité de l'espèce humaine à pouvoir avoir une vie de qualité, juste et saine sur cette planète.
Le rapport désigne les principaux coupables: pollution, changement climatique, surexploitation, mais surtout le changement d'usage des terres. L'agriculture et les villes s'étendent de plus en plus sur les forêts, les prairies, les zones humides. 85% des zones humides ont disparu dans le monde.
Alors ça, c'est le constat, Sandy. Une espèce sur 8 pourrait disparaître à moyen terme. Mais le rapport dit aussi qu'il n'est pas trop tard et qu'il y a des pistes à mettre en place en urgence.
À condition de mettre en place un changement de fond dans nos modes de production agricole, de consommation. Les systèmes financiers et économiques doivent aussi évoluer, explique Robert Watson, le président sortant de l'IPBES.
Il ne faut vraiment plus subventionner les activités économiques nocives pour la planète. Il faut que les gouvernants arrêtent de voir le PIB comme le seul indicateur de la richesse. Il faut en intégrer d'autres, comme le capital environnemental ou humain, mais il faut s'attendre à une opposition de la part de ceux qui ont des intérêts particuliers.
Réunis à Paris, les représentants de 130 gouvernements ont adopté une synthèse de ce rapport. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas.
Et vous trouverez en détail les propositions de solutions sur le site d'Inter, franceinter.fr. Merci Sandy Dauphin. Et puisqu'on parle d'espèces menacées, en voici une, le gypaète barbu, un rapace réintroduit ce matin dans les Cévennes, dans le cadre, Saïd Makhloufi, d'un programme européen de sauvegarde.
Sur la corniche du Méjean, avec une vue incroyable sur les Cévennes, nos 3 gypaètes sont installés dans une vire au bord du vide. Une vire, c'est une cavité naturelle. Ça ressemble à un nid d'oiseau géant.
Ils vont rester là pendant 3 semaines, un mois à peu près. juste avant leur envol.
Ils seront ensuite suivis grâce à un GPS. L'objectif des réintroductions de gypaètes barbus reste toujours le même. Anne Le Gille, directrice du Parc national des Cévennes.
L'idée, c'est surtout qu'on puisse avoir à moyen terme des couples qui s'installent sur le territoire, ce qui n'est pas encore le cas.
Car il n'y a toujours pas eu de naissance dans la nature. Les gypaètes actuels sont nés et élevés en captivité avant d'être réintroduits. L'oiseau est immense. Michel est membre de la Ligue de protection des oiseaux.
L'envergure, elle est, on va dire, de 2,50 m à 2,80 m. Il n'est pas muet, mais il est très économe de ses émissions sonores. C'est un sifflement très aigu et très long. Quelque chose comme ça. Il joue un rôle important dans la nature. Il mange des os après le passage des vautours. Il est le seul à les manger. Les crottes d'un gypaète, on peut écrire avec tellement c'est du phosphate de calcium presque pur.
Le gypaète recycle naturellement des cadavres de bêtes pour le plus grand bonheur des éleveurs qui n'ont plus besoin de faire appel aux écarisseurs.
Reportage signé Saïd Makhloufi de France Bleu Gare-Lozère. Le prochain rendez-vous crucial pour la biodiversité, c'est la COP 15. Ce sera l'an prochain en Chine, qui sera aussi importante que la COP 21 sur le climat à Paris.
Plusieurs centaines de personnes devant le tribunal de grande instance de Paris.
Des anciens de France Télécom et des proches, des familles, des 35 salariés qui se sont donné la mort à la fin des années 2000, tous venus réclamer que justice soit faite au début du procès de l'entreprise qui est devenue depuis Orange. Procès pour harcèlement moral organisé, le premier d'une société du CAC 40 pour ce motif. La direction voulait supprimer 22 000 emplois en 3 ans. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Sébastien.
Face à face pour ce premier jour, l'ancien PDG Didier Lombard, son numéro 2, son DRH de l'époque et des dizaines de parties civiles.
Oui, face à eux, la présidente prend une voix grave. Le tribunal veut comprendre, commence-t-elle, comprendre le fonctionnement d'une entreprise qui comptait plus de 100 000 salariés, le nombre d'habitants d'une ville comme Montreuil, comprendre pourquoi des salariés ont déposé plainte contre leur employeur, pourquoi certains ont écrit des livres intitulés « Ils ont failli me tuer » ou encore « Ils m'ont détruit ». Derrière la magistrate, sur un écran, défile une carte de France avec des points qui figurent l'âge, le sexe, le statut des 39 victimes retenues par les juges d'instruction. Ce sont surtout des hommes, fonctionnaires de plus de 50 ans. Les petits points se concentrent en région parisienne, dans le Nord, en Normandie, à Bordeaux. Derrière 19 de ces points, il y a des morts. L'un s'est jeté sous un train, un autre s'est pendu, une autre s'est défenestré. L'émotion, prévient la présidente, sera présente, sourde ou violente. Dans la salle comble, des mains se serrent. Près de 120 personnes supplémentaires ont demandé aujourd'hui à être partie civile. Il faudra comprendre aussi, dit la magistrate, pourquoi les prévenus contestent les agissements qui leur sont reprochés. Alignés devant leurs avocats, ils sont 7 autour de Didier Lombard, l'ex-PDG, 77 ans, en costume sombre. Il n'a aujourd'hui fait que décliner son identité et son statut, retraité depuis 2011. Dès demain, tous commenceront à répondre de l'accusation d'avoir organisé un harcèlement moral systémique à France Télécom.
Et le procès doit durer jusqu'au 12 juillet. Merci Corinne Audouin. On reste au palais de justice de Paris avec ce dossier qui met en cause 6 pompiers de Paris accusés de viol par une étudiante norvégienne de 20 ans après une soirée arrosée dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Ils étaient présentés à un juge d'instruction cet après-midi. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Et ils sont placés sous statut de témoin assisté.
Oui, les 6 militaires pompiers de Paris avaient été déférés ce matin devant la section militaire du parquet du tribunal de grande instance de Paris. Après 48 heures de garde à vue, 3 d'entre eux étaient soupçonnés de viol en réunion et 3 autres de non-empêchement de crime. Durant leur garde à vue, les 6 hommes n'ont pas nié qu'il y avait eu un rapport sexuel mais qu'il était consenti. Cet après-midi, ils ont été présentés effectivement à un juge d'instruction. En l'occurrence, la doyenne des juges d'instruction, Sabine Kéris, qui au vu des premiers éléments du dossier, n'a pas mis en examen les pompiers. Il n'y aurait donc pas à ce stade de l'enquête d'indices suffisamment graves ou concordants pour une mise en examen. Les 6 pompiers parisiens sont donc ressortis libres du tribunal en étant placés sous le statut de témoin assisté. Cela signifie qu'il faudra attendre les résultats des investigations, des analyses de prélèvement ADN qui sont en cours. La juge d'instruction pourra donc dans les semaines, les mois qui viennent, reconvoquer à tout moment les pompiers ainsi que la jeune étudiante norvégienne qui a porté plainte pour viol en réunion. Et ce n'est qu'à l'issue de cette enquête qui a démarré samedi matin que la juge d'instruction pourra revoir le statut des 6 pompiers mis en cause ou de classer le dossier sans suite.
Emmanuel Leclerc en direct du Palais de Justice de Paris avec Éric Gérard. Une croix gammée dessinée sur la permanence du secrétaire d'État à la fonction publique Olivier Dussopt à Annonay en Ardèche, devenue celle de la députée socialiste qui lui a succédé après son entrée au gouvernement, Michèle Victory. La croix gammée a été tracée sur la plaque à l'entrée de l'immeuble.
En marché, le Rassemblement national au coude à coude à 3 semaines des européennes.
22% pour le RN, 21,5% pour la majorité, d'après le sondage Ipsos Soprasteria pour Radio France et France Télévisions, qui est en ligne avec tous les détails sur franceinter.fr. La campagne ne décolle donc pas comme Emmanuel Macron le souhaite. Bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Sébastien.
Alors pour aider sa tête de liste, Nathalie Loiseau, à émerger, le gouvernement est appelé en renfort et même le Premier ministre qui sera avec elle sur l'estrade tout à l'heure à Caen.
Oui, et toute ressemblance, dit l'adage, avec des personnes ayant existé serait purement fortuite, mais quand même, je vous laisse redécouvrir cette archive. C'était il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, extrait d'un meeting à Nîmes.
L'Europe des pères fondateurs, c'est une Europe qui considérait que son devoir était de protéger. C'est une Europe ouverte, mais qui refuse la naïveté.
Nicolas Sarkozy, président en exercice à l'époque, qui plongeait dans la campagne européenne, modèle à suivre, eh bien c'est le message effectivement que fait passer la garde rapprochée d'Emmanuel Macron. Incarner l'Europe des constructeurs contre ceux qui veulent la démolir, explique un conseiller, seul contre 32 listes sur 33, renchérit un ministre. Dramatisation assumée. Devant des parlementaires reçus à l'Elysée, Emmanuel Macron a dit son inquiétude. Les sondages nous donnent sous mon score du premier tour de 2017 et sous mes cotes de popularité les plus basses. Paradoxe pour une liste qui ratisse large. Donc prière de se démultiplier. Édouard Philippe, vous le disiez, montre l'exemple et enfile le bleu de chauffe à Caen. Caen qui est l'un des 8 meetings organisés simultanément par la liste Renaissance à travers la France ce soir pour tenter de réveiller ce socle endormi de 2017. Quant au président, eh bien, il cherche le bon moment, le bon endroit pour entrer dans l'atmosphère avec le risque, et ses adversaires n'attendent que ça, d'une renationalisation totale de la campagne. Le 26 mai, l'Elysée l'a parfaitement intégré, ce seront des midterms à la française, pour ou contre Macron. Soufflera-t-il ou se fera-t-il souffler sa deuxième bougie à l'Elysée?
Et Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, sera même à Strasbourg samedi avec Nathalie Loiseau. Merci Yael Gauze. Du côté de la liste PS, place publique, la tête de liste Raphaël Glucksmann présentait aujourd'hui son programme en 120 mesures. Pour, dit-il, comme on l'entend dans les manifs climat, réconcilier fin du monde et fin du mois. Notre sondage Ipsos crédite sa liste de 5,5% des intentions de vote. Avant d'être avec Nathalie Loiseau ce soir à Caen, Édouard Philippe était ce matin sur une autre opération de sauvetage pour renouer le dialogue avec les partenaires sociaux et changer de méthode dans la mobilisation pour l'emploi et l'écologie. Réunion boycottée par la CGT qui voudrait que le gouvernement ne se souvienne pas de manière épisodique qu'il y a des syndicats dans ce pays. Mais saluer cette réunion par la CFDT, par l'UNSA qui se félicite d'un changement de méthode comme le MEDEF. Là où FO regrette un rendez-vous pour rien parce qu'il n'a pas été question d'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat. Comme le résume Michel Bogas, secrétaire confédéral en charge de l'emploi, au micro d'Adrien Toffolet.
Qu'est-ce qu'empêche d'avoir un logement? Qu'est-ce qu'empêche de se déplacer? Qu'est-ce qu'empêche de pouvoir se payer une nounou ou de pouvoir inscrire son enfant dans la crèche? Eh bien, effectivement, un manque de moyens financiers des ménages. Et donc, si on commence par répondre à cette question, et si le gouvernement, plutôt que par un jeu d'artifice, commençait à obliger et le patronat et lui-même en tant qu'employeur à augmenter les salaires des uns et des autres, je pense qu'on aurait déjà une partie des solutions. Aujourd'hui, on n'a eu aucune annonce, y compris sur la prime de transport ou de mobilité. On l'appelle comme on veut, qui est une des revendications de force ouvrière. Le Premier ministre nous a signifié qu'il y avait, les arbitrages n'étaient pas faits et donc on ne sait pas demain si elle sera renvoyée à la négociation d'entreprise ou si elle sera obligatoire ou même, et c'est ce qui nous inquiète le plus et je l'ai rappelé, peut-être différenciée par les territoires. Voilà, je me pose des questions. On nous écoute mais je ne suis pas sûr qu'on nous entende.
L'économie encore avec les taux des crédits immobiliers encore en baisse en avril. Les banques françaises prêtent à 1,35% en moyenne, d'après les professionnels, tout près du record de novembre 2016, 1,33%.
Il est 19h13 sur France Inter. Le rendez-vous d'après-demain, mercredi, est maintenu à Washington.
Oui, les négociateurs chinois ont toujours prévu pour l'instant leur discussion commerciale avec les États-Unis, malgré l'annonce hier de Trump d'une nouvelle hausse des droits de douane. 200 milliards de dollars de produits chinois qui ne seront plus taxés à 10, mais à 25%. À Pékin pour Inter, Dominique André.
L'équipe de négociateurs chinois se prépare à partir aux États-Unis pour des pourparlers, confirme le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Mais le mystère plane sur le déplacement dans la capitale américaine du principal négociateur, Liu He, un proche du président Xi Jinping. À Pékin, les autorités sont surprises par ce brusque revirement de Donald Trump. Le Global Times, journal nationaliste du Parti communiste, affirme qu'il est peu probable que Liu He se rende à Washington ou alors il écourtera son séjour, croit savoir le South China Morning Post, le grand quotidien de Hong Kong. Les nouvelles menaces de Donald Trump ont fait plonger les bourses asiatiques. Shanghai a cédé plus de 5%. Les analystes se demandent s'il s'agit d'une tactique de négociation de la part des Américains ou si la guerre commerciale va repartir de plus belle. Il y a 3 jours, le Financial Times, citant des sources proches des discussions, affirmait qu'un accord était proche, mais qu'il fallait encore progresser sur la mise en œuvre d'un mécanisme de contrôle voulu par Washington. La Chine a besoin d'un accord commercial pour relancer sa croissance économique. Pékin, Dominique André, France Inter.
Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt en Espagne, exilé en Belgique depuis 1 an et demi, mais il peut se présenter aux européennes. Un tribunal de Madrid autorise Carles Puigdemont à se présenter aux élections dans 3 semaines. L'ancien président catalan a été destitué après sa tentative de sécession, mais il n'a pas été condamné à une peine d'inéligibilité pour la justice. Il peut donc figurer sur une liste indépendantiste. Lui est en prison en Turquie depuis 1999 et il a vu ses avocats pour la première fois en 8 ans. Le chef historique de la rébellion kurde, Abdullah Öcalan, le leader du PKK, demande aux forces démocratiques syriennes de rechercher une autre solution qu'un conflit armé en Syrie. Et par ailleurs, une nouvelle élection municipale aura lieu à Istanbul. L'opposition au président Erdogan l'avait emporté, mais le conseil électoral annule sa victoire. À Marseille, encore beaucoup de questions. 6 mois après l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne qui ont fait 8 morts, 660 personnes sont toujours à l'hôtel alors que plus de 400 000 logements sont considérés comme indignes en France. Plusieurs propositions de loi ont été déposées ces dernières semaines pour apporter de nouvelles solutions. L'une d'elles, cet après-midi, pour ses auteurs, Claire Chaudière, les réponses du gouvernement ne sont pas à la hauteur des enjeux.
Les mois passent et l'immense prise de conscience sur l'état du bâti et l'insalubrité de centaines de milliers de logements semble retomber. Elle n'a pour le moment débouché sur aucune réponse structurelle, déplore le député communiste de Seine-Saint-Denis, Stéphane Peu.
Rien n'a bougé. Le temps médiatique, entre autres, le temps politique aussi, a tendance à effacer peu à peu les effets de cette émotion jusqu'au prochain drame. On ne fera pas une politique efficace de lutte contre l'insalubrité uniquement avec des mots.
Sa proposition de loi présentée tout à l'heure prévoit un plan de résorption de l'habitat indigne sur 10 ans, muni d'1 milliard d'euros, et demande à ce que l'État devienne le seul véritable garant en matière de logement pour éviter des situations où chaque strate administrative se renvoie la balle. Une impasse dont n'est toujours pas réellement sortie. Marseille, regrette Fatih Boiroy, ex-directeur régional de la Fondation Abbé Pierre.
Nous avons encore aujourd'hui une perspective qui est la même que celle d'hier, c'est extrêmement préoccupant. Nous allons droit au mur. Il manque un élan politique et les moyens pour le tenir.
Une autre proposition de loi portée par un sénateur LR cette fois suggère de rendre plus faciles les expropriations lorsque les propriétaires ne font pas les travaux nécessaires.
Il est né à 5h26 ce matin, il pèse 3,3 kg, le fils du prince Harry et de Meghan Markle. Ils réfléchissent toujours, nous dit-on, à un prénom. Dans une semaine, le début du Festival de Cannes et avant la croisette, les chiffres du Centre National du Cinéma pour l'an dernier, où l'on découvre que les Français vont toujours autant en salle, beaucoup plus que les autres Européens, 200 millions d'entrées, 40% de films français. Mais ce qui change de plus en plus, bonsoir Jacqueline Pétrose.
Bonsoir Sébastien.
Ce sont ensuite les autres façons de consommer des films.
Oui, alors le cinéma en salle reste un incontournable brassage d'âge et de conditions sociales et c'est un facteur de satisfaction pour le CNC. Mais le CNC est aussi en charge de l'aide à la création audiovisuelle et à l'image animée. Et c'est là que tout change et à toute vitesse, la consommation du cinéma et de la création à la télévision s'est finie avec la passivité. C'est terminé. Les 44 millions de téléspectateurs font désormais leur propre programme. En particulier, bien sûr, avec le fameux replay chez les 18-25 ans. Frédéric Bredin, présidente du CNC.
On voit une explosion de ce type de pratique, puisque aujourd'hui, c'est plus de 8 milliards de vidéos qui sont vues chaque année. Et quotidiennement, c'est 7 millions de spectateurs par jour qui consomment la télévision en replay. 80% des jeunes regardent aujourd'hui la télévision, si je puis dire, autrement.
Alors, les plateformes, bien sûr, comme Netflix, sont en explosion. Netflix représente cette année l'équivalent de la 5e chaîne de la TNT. Il a donc fallu s'adapter pour que la création et le cinéma restent performants à la télévision.
On a décidé d'intégrer ces nouvelles plateformes numériques, que sont Netflix, que sont YouTube, dans le système de financement de la création européenne et française. Et la France a été le premier pays avec l'Allemagne à taxer Netflix pour que Netflix participe également au financement de la future création française.
Alors, la télévision reste pour le cinéma, bien sûr, une très belle vitrine, puisque 2500 films y sont diffusés chaque année.
Jacqueline Pétros est toujours à propos de cinéma. Cette fois, on a l'affiche complète. C'est le nouveau film d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano qui sera le dernier projeté au Festival de Cannes en dernière séance. Après l'annonce du palmarès, le film s'appelle Hors Normes. Il réunit Vincent Cassel et Reda Kateb. Il est question de deux responsables associatifs qui s'occupent d'enfants autistes dans des quartiers difficiles.
Et merci beaucoup Sébastien Paour. On se retrouve demain évidemment pour le journal.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Sébastien Léas, un ciel de plus en plus voilé, voilà pour le programme de demain.
Oui, une perturbation va se rapprocher de l'hexagone demain. Le soleil sera donc souvent voilé. Et ce voile nuageux va devenir de plus en plus dense au fil des heures. Entre la Bretagne et l'Aquitaine, le ciel sera même laiteux dès le matin. Quelques ondées pourront se produire près du littoral, puis les nuages vont continuer de se multiplier l'après-midi, laissant échapper quelques pluies précoces. Le corps de la perturbation arrivera, lui, durant la soirée pour donner une nuit pluvieuse. Et d'ici là, la matinée de demain sera globalement lumineuse, notamment sur la moitié est. Le quart sud-est aura même un temps bien ensoleillé demain matin, mais des entrées maritimes vont aborder le littoral l'après-midi. Et puis entre les Hauts-de-France et l'Alsace, le ciel sera partagé et quelques averses pourront se faire remarquer au nord de la Seine.
Et sinon, température en légère hausse?
Oui, sur la façade ouest, on gardera quand même un risque de petites gelées la nuit prochaine, mais elles seront bien moins nombreuses que la nuit dernière. L'après-midi, les maximales se rapprocheront des normales de saison. 15 degrés pour Abbeville et Valenciennes, 16 degrés à Mulhouse, Brest et Besançon, et 17 degrés pour Paris, Cherbourg et Tours, 18 degrés à Lyon, Nantes, Nice et Montpellier. On ira quand même jusqu'à 21 degrés à Bordeaux et Avignon, 22 degrés pour Albi et même 24 degrés dans les Landes.